C'est maintenant le deuxième jour de ce colloque international et chacun et chacune d'entre nous connaît maintenant, si vous voulez, les six questions qui sont posées, débattues pour comprendre, pour critiquer, pour analyser le contenu, les motivations, les ambitions et aussi les bilans des expositions publiques du racisme et de l'antisémitisme par la muséographie. C'est exactement un peu la feuille de route que nous avons reçue les uns et les autres. Donc, la première question qui nous avait été posée, elle porte sur les choix des universitaires, des commissaires d'exposition, des artistes. Et la seconde question porte, elle, sur l'enseignement. Je ne le vois plus. La seconde question porte sur l'enseignement qu'ils en retirent et sur les échecs éventuels. La troisième porte sur la validité, l'efficacité des choix, de leurs choix à tous ces gens-là. Je ne suis pas moi-même, si vous voulez, conservateur de musée, et je fais partie des non-spécialistes qui interviennent dans ce colloque. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas scientifique, et d'ailleurs, j'ai des talents artistiques qui sont extrêmement modestes, et je pourrais difficilement répondre aux trois premières questions. Mais je vous rassure, il n'y a là rien d'inquiétant, puisque nous avons parmi nous, à cette table ronde, des gens qui sont compétents de par leur travail et de par leurs expériences de terrain. Je les présente rapidement, je pense qu'ils se représenteront eux-mêmes et vous comprendrez toute l'étendue de leurs connaissances. Ilzen Abou, qui est historien au CNRS, qui est co-commissaire de l'exposition des mondes tziganes et de la fabrique des images au MNHI. Nous avons, et je la salue, Julia Ferloni, conservatrice du patrimoine, responsable des collections artisanat, commerce et industrie au MUCEM, et qui est également commissaire de l'exposition Barvalo au MUCEM à Marseille, toujours. Notre amie Anna Mirga, qui est directrice adjointe de l'ERIAC, l'Institut européen des arts et de la culture rom, qui est basé à Berlin, et qui est elle commissaire d'exposition Barvalo au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM de Marseille. Alors, nous avons là des gens extrêmement compétents qui vont pouvoir vous renseigner sur les trois premières questions. C'est pourquoi j'ai choisi moi-même de commencer directement par la quatrième question, celle qui porte sur les retours du public, sur son adhésion, son rejet, ses critiques et ses réserves. Mais quel public? Quel est le public qui se rend dans les expositions, si vous voulez? Alors, dans ces expositions particulières pour lesquelles on m'a demandé d'intervenir, qu'est-ce qu'on expose? On expose le racisme, l'antisémitisme et ici, plus particulièrement, l'antiziganisme et encore plus particulièrement les violences et les discriminations que subissent les Roms. Alors, bien évidemment, dans ce public, tout le public, comme n'importe quelle exposition, après tout, elles sont ouvertes, elles sont publiques, et tout le public est concerné, aussi bien les autorités politiques, les autorités judiciaires et les autorités chargées d'assurer la sécurité de tous les citoyens du pays, y compris, d'ailleurs, la sécurité des Roms, c'est-à-dire des Tziganes et au sens large, les Roms d'Europe centrale, et puis plus particulièrement en France, les Montrouges, les Gitans, les Yéniches, les gens du voyage, c'est toute cette définition globale que donne le Conseil de l'Europe. Alors, de la réflexion d'un Tzigane, étant Tzigane moi-même, étant écrivain, j'ai quelques réflexions à communiquer, si vous voulez, sur ces projets et sur ces expositions. Parce que exposer, bien évidemment, on va passer des heures là-dessus, mais c'est faire apparaître en public et mettre en lumière, c'est donner à voir, donner à contempler telle chose. Donc, on va dans les archives, on va dans les réserves des musées, on contacte d'autres musées et on va exposer, on va plaquer au mur et montrer aux gens ces questions de racisme, d'antiracisme, d'antiziganisme plutôt, extrêmement prégnant dans notre société. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, c'est que l'exposition muséographique est l'un des rares endroits où l'image des Roms, des Tziganes, n'est pas une image négative. Quel que soit le miroir qu'on tend aux Roms et aux Tziganes dans notre société, que ce soit dans l'opinion publique, que ce soit dans la presse, dès l'instant où vous avez un article qui concerne les Roms, les gens du voyage, les Tziganes, de quelque façon que ce soit, à ce moment-là, l'article, il est systématiquement, illustré par un tas de poubelles ou par une voiture de police. Ce sont les deux iconographies qui illustrent les Tziganes et la vie des Tziganes et les événements relatifs aux Tziganes dans notre pays. Quel que soit le fond et la nature de l'article, ça peut être un débat d'une collectivité locale, ça peut être de l'aménagement du territoire, ça peut être un fait divers, ça, quoi que ce soit, c'est comme ça. Nous sommes illustrés à chaque fois par un tas de poubelles et une voiture de police. Ce qui n'est pas le cas, enfin, si vous voulez, des expositions muséales. Bien évidemment, ces expositions muséales, elles sont, si vous voulez, il y a tout le travail du commissaire ou de la commissaire d'exposition, avec sa rigueur documentaire, avec l'équipe qui va travailler à monter cette exposition avec lui, avec elle. Il y a aussi un recours, si vous voulez, aux sciences humaines, les autres, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, l'archéologie, ainsi de suite, Et tous ces recours vont solidifier, vont stabiliser enfin le discours tenu sur les Tziganes. Donc, il peut être neutre, il n'est pas forcément bienveillant, mais il faut dire qu'en France, il est pratiquement, il peut y avoir quelques petites erreurs de parcours, mais il n'est pas malveillant. Et ça, pour nous, c'est important. Le discours muséographique et les expositions muséographiques ne sont jamais malveillantes à notre égard. Alors, là, c'est tous ces travaux préparatoires qui sont faits par les équipes des musées, tels que nous les voyons de l'extérieur, ils vont bien évidemment tendre à éviter, si vous voulez, les clichés, les stéréotypes, les préjugés, les sujets répétitifs, et ils peuvent même, à la rigueur, parfois même, ils peuvent prendre à rebours l'opinion publique et provoquer quelque chose de très intéressant, c'est enfin un peu de réflexion plutôt que des préjugés à notre égard. Alors, j'ai parlé, si vous voulez, des stéréotypes, et quand le premier stéréotype auquel on pense, auquel tout le monde pense, en parlant des Tziganes, en parlant des Manouches, en parlant des Bohémiens, le premier stéréotype, c'est « voleur de poules ». Alors, c'est très classique, ça ne nous touche absolument plus. D'ailleurs, venez à la campagne, il y a très peu de poules sur les routes, donc ce n'est pas si facile que ça que de les voler. Elles sont dans les élevages industriels, mais enfin, bon, là n'est pas le sujet. Mais ça fait venir une idée, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas que les poules qui disparaissent. Et là, apparaît le mot, à l'opposé, au contraire, c'est l'antonyme de l'exposition, qui est le mot de disparition. L'exposition, elle est dans les musées, et les Tziganes vivent continuellement cette hantise de la disparition. Parce que les Tziganes, encore à l'heure actuelle, trois quarts de siècle après la fin de la guerre, c'est un peuple qu'on a voulu faire disparaître. Comme le peuple juif, comme le peuple arménien, comme le peuple rwanda, c'est un peuple qu'on a voulu faire disparaître. Donc, cette disparition, elle hante absolument toutes les familles à l'heure actuelle, et depuis un moment. C'est dans les récits qui ne sont pas faits. C'est aussi probablement augmenté, et c'est compréhensible, par la disparition des tout derniers témoins, si vous voulez. Ce génocide qui a eu lieu en Europe, ce génocide qui a fait 300 000, 500 000 victimes, on ne parle que de ça, on en parle tout le temps et on ne pense qu'à ça. Alors ça, c'est assez extraordinaire, cette disparition, on en parle tout le temps, C'est devenu une obsession. Alors, c'est devenu une obsession et quelquefois, on essaye de raisonner les familles, on essaye de raisonner les amis, les cousins, et on leur dit, la Terre entière ne veut pas la disparition des IA. Mais quand on analyse tout ça, le but ultime de l'antiziganisme, puisque c'est de l'antiziganisme, comme on a parlé de l'antisémitisme et du racisme, l'antiziganisme, dans un passé quand même récent, si vous voulez, c'était de faire disparaître les tziganes, de l'anéantissement, de faire nishtum. Et ça a été ça, l'anéantissement et la disparition des tziganes. Ça a été mis en œuvre, cette disparition des tziganes a été mise en œuvre incomplètement. C'est plus complexe que les quelques minutes pendant lesquelles nous pouvons travailler, si vous voulez. Elle a été mise en œuvre, mais elle a fait des centaines de milliers de victimes. Et chaque jour, on retrouve cette crainte de la réapparition des actions de ces forces hostiles qui sont bien décidées à éradiquer la présence des tziganes par la violence. Alors là, c'est complexe, parce que même si les plus âgés des tziganes parmi nous, ils n'ont jamais lu un livre, puisque c'était une civilisation de culture orale, si vous voulez. Ils n'ont jamais visité une exposition, même si la presse, la télévision et les médias parlent pas de ces disparitions, ou en parlent très peu, si vous voulez. Il y a un discours, il y a des recherches, il y a des études, il y a des travaux d'historiens sur ces disparitions des tziganes et sur la destruction des tziganes d'Europe. Je copie exprès le titre de Roland Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe. Et toutes les personnes ont vécu ça et connaissent cette disparition. Et on a voulu faire disparaître la race tzigane. J'emploie le mot race, bien évidemment, exprès. Je fais exprès et je grossis le trait, parce que c'est quand même aussi le mot qui figurait dans les directives. Alors, la liste, si vous voulez, de ces disparitions et de cette crainte de la disparition, elle existe encore même après la guerre. Ce sont les stérilisations forcées jusqu'à la fin des années 1980, 90, 95 dans certains pays, Slovaquie, Suède, le retrait des enfants, c'est les retraits des enfants de leur famille, comme en Suisse, si vous voulez. Et la liste est longue. Et il y a deux autres formes de disparition qui nous préoccupent énormément. C'est la disparition de la langue, le romani, parce que nos parents ont refusé, se sont interdits de nous transmettre la langue, si vous voulez, pour nous protéger. Parce que si la langue permet de révéler, ça ne se voit pas que nous sommes tziganes sur nous. Nous ne sommes pas noirs, il y a des tziganes qui sont de couleur, de peau plus mate, plus foncée, c'est visible, mais pas tous, et une majorité n'est pas de couleur noire, quoi qu'on en dise. Alors, c'est les stérilisations d'enfants, c'est, si vous voulez, la disparition de la langue, et un autre phénomène que j'appelle, quant à moi, le maranisme. C'est-à-dire, vous savez, c'était les Juifs qui étaient accusés par l'Inquisition de pratiquer leur religion en secret et de montrer en extérieur leur adhésion à la religion catholique, mais qui en fait restaient en secret de religion et de conviction telles que les pratiquent les Juifs. Et cette forme de maranisme, c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui, dans leurs études, au collège, au lycée, vont cacher leurs origines. Quand on me dit il n'y a pas de gens du voyage dans les collèges, j'en connais des dizaines. Il n'y a pas de gens du voyage à l'université, je suis désolé, il y en a dans les lycées. Donc, l'école est obligatoire depuis 45. Donc, les gens qui sont nés en 40, les gens qui sont nés en 60, les gens qui sont nés en 80, les gens qui sont nés en 2000, il y a quatre générations qui sont allées à l'école. Plus ou moins loin, avec un cursus plus ou moins différent, avec des origines sociales souvent pas très riches, donc, mais ça existe. Mais tous ces gens-là, vous ne les connaissez pas parce qu'ils ne vous expliqueront jamais qu'ils sont tziganes eux-mêmes. Donc c'est aussi une forme de dissimulation ou de disparition. Alors, cette crainte, si vous voulez, de la disparition, elle est confortée également, si vous voulez, par ce qui se passe dans la société. Dans la société, si vous voulez, l'antiziganisme imprègne une très très grande partie, une très forte partie de notre société. Quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans le discours des élus, dans le discours du législatif, au Sénat, à l'Assemblée nationale, quand on reprend les verbatims des discours à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on est effaré de voir cet antiziganisme en open bar, complètement libre, complètement décomplexé et qui s'exprime tranquillement, ce qu'il ne ferait jamais, qu'il ne s'autoriserait jamais à faire pour toute autre catégorie de personnes, de citoyens de ce territoire. Alors, mon ambition, ce n'est pas non plus de vous détailler tout le catalogue des misères que subit cette Zigane, on ne va pas faire du misérabilisme, mais de rappeler surtout que les expositions muséales, aussi belles, aussi fortes soient-elles, si vous voulez, elles durent au mieux quelques semaines dans un lieu précis. C'est de telle date, à Marseille, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Dijon. Et par contre, il y a une exposition concurrente et qui est adversaire, si vous voulez, et qui est l'expression de la haine contre les Tziganes. Elle se déroule simultanément à ces expositions, mais elle se déroule en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook. Là, l'expression de l'anti-tziganisme le plus violent qui puisse exister, les appels au meurtre aujourd'hui, en 2021, si vous voulez, ils ne rencontrent aucun barrage, aucun contre-feu, quasiment aucune condamnation morale et la plupart du temps, aucune sanction judiciaire. L'anti-tziganisme s'exprime tout à fait librement, open bar. Alors, cette impunité quasi structurelle, si vous voulez, elle amène à penser que on peut tout faire. On peut tout faire en matière d'anti-tziganisme. On peut tout faire dans des durées. On ne prend pas de limites, on ne prend pas de précautions, on ne prend pas d'archives, on ne prend pas de renseignements. C'est vrai, c'est faux, ce n'est pas grave, ça circule à flot continu. Donc, il y a une forme d'asymétrie. Il y a la rigueur d'une exposition muséale et il y a l'open bar, le laisser aller, le laisser passer des réseaux sociaux. Et si vous voulez, tout ça, c'est de la communication. Alors, le musée va faire une affiche, il va faire une petite plaquette, il va recevoir des gens, il va y avoir deux, trois reprises à la télévision, tandis que les autres communiquent à flot continu et très fort. Et dans l'expression violente du racisme, je donne deux exemples très rapides de la communication et des effets de la communication. Il y en a le premier exemple, ou le second, comme vous voulez, s'appelle Goebbels en Allemagne, par la propagande, et le second, vous le connaissez aussi, c'est Radio Mille Collines au Rwanda. On a pratiquement l'équivalent, bien évidemment un degré moindre, puisqu'on peut pas, ils n'en sont pas là, mais on a une montée en puissance constante, si vous voulez, de l'anti-tziganisme, et en face, on a pratiquement aucun autre discours que le discours assez sage, plutôt bien fait, des expositions muséales. Les élus ne prennent pas parti parce que prendre parti quelque part pour les Tziganes, c'est s'aliéner des électeurs. Donc, on va laisser les choses comme ça. Au contraire, quand on leur tape un petit peu dessus, on voit monter les indices de confiance dans les sondages. Donc, si vous voulez, d'une part, l'exposition, de l'autre côté, la disparition. Alors, je voudrais juste profiter de cette occasion, non pas pour faire du militantisme avec mon petit poing, au bout de mon petit bras, avec une petite pancarte, si vous voulez, surtout pas, mais dire que les premiers concernés par ces expositions, c'est nous. Ce sont les Tziganes, ce sont les gens du voyage, ce sont les Manouches, ce sont les Roms, ce sont les Gitans ou Calais du sud de la France, ce sont nous. Et souvent, globalement, on n'est pas bien riches, ils ne sont pas bien riches, globalement, ils n'ont pas beaucoup de sous pour monter à Paris voir une expo, ils n'ont pas beaucoup de sous pour aller à Toulouse. Ils ont pas... Bon. Et est-ce qu'on pourrait suggérer, si vous voulez, dans la réflexion de ce colloque, que l'exposition sorte des murs du musée, c'est-à-dire qu'elle soit possible en vidéo, qu'on en retrouve même des morceaux en vidéo, c'est-à-dire qu'il faut libérer des droits, c'est plus complexe que ce vœu pieux que je suis en train de vous exprimer, c'est un peu plus compliqué que ça, et que l'exposition sorte un peu, qu'on retrouve des éléments, parce que moi qui suis très, très, très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer qu'on retrouve très fréquemment des bribes, des genres de. Là, les expositions fabriquent des vérités ou des éléments de langage, plutôt des éléments de langage qui sont repris. Et on retrouve des morceaux d'exposition dans les discours des gens. Parce que nous n'avons pas que des discours, nous avons énormément de discours hostiles, mais nous avons quelques discours bienveillants ou neutres sur les réseaux sociaux. Et on retrouve les éléments de ces expositions parce que c'est à peu près le seul lieu de sagesse, de discussion à notre sujet. Et il y a bien évidemment tous les ouvrages universitaires, ils sont rarement hostiles à nous. Il y a tous, mais l'ouvrage universitaire, il est d'un accès beaucoup plus difficile. L'exposition, elle est d'un accès simple quand même. Donc on peut y aller, on peut aller la voir, on en retire quelque chose. L'exposition, je vous le dis tout de suite, elle ne nous plaise jamais. Mais vous savez, c'est comme quand on va faire des photos d'identité, on revient et on se dit, oh là là, mais elle n'est pas sympa ce photographe, elle est moche ma photo, moi est-ce que je ne ressemble pas à ça? On va voir l'exposition et nous aussi on se dit, bah, on ne ressemble pas à ça, ils se sont trompés. Et puis, quelques années après, on reprend sa photo d'identité, puis on se dit, ah ben, j'étais quand même pas mal à l'époque. J'étais encore assez bien. Et c'est un peu la même chose. On se dit, on nous tend un miroir, et puis voilà, on ne trouve jamais assez bien. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Ce n'est pas essentiel. Sur la durée, sur le temps, on reprend le contenu de ces expositions. En France, dans notre pays, elles sont plutôt pas mal. Voilà. Alors, est-ce que, quand j'ai soumis ça à quelques amis conservateurs de musée, ils sont un petit peu inquiétés, ils m'ont dit c'est énorme ce que tu nous demandes là et tout ça. Mais ça se fait déjà.
Monsieur
Il y a un
Debré,
endroit où
je vous
ça se
propose,
fait.
voilà, je vous propose de laisser aussi un peu de temps pour justement
Il me
les
reste
échanges.
une minute. Je suis au bout.
D'accord.
Hein? Il me reste une minute. Si, mais ça, c'est important. Ça se fait. Et par exemple, il y a 2 jours sur Twitter. Il y a un tweet qui dit: une petite fille tzigane allemande, Elisabeth Meyer, est née le 5 mai 1937 à Uffolsheim, internée au Familienzigeunerlager d'Auschwitz, Birkenau, le 13 octobre 1943, à l'âge de 6 ans, immatriculée sous numéro Z2836. Elle est morte un mois après, le 14 avril 1943. Ce tweet, il a été repris, tweeté, retweeté 633 fois, 3670 likes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mémorial d'Auschwitz. Donc, la muséographie est aussi en réseau. Et quand elle est en fait bénéfique et qu'elle n'est pas hostile aux Tziganes, elle est énormément reprise. Alors, je conclue. Les Tziganes, ils sont bien là, ils sont bien vivants. Et puis maintenant, on va passer la parole à Ilzen, on va passer la parole à Anna. Vous voyez, comme je l'avais promis, je vais assez vite. À Anna et à Julia, qui vont vous parler de cette longue histoire de l'antiziganisme, de l'art, des artistes ziganes, et leur créativité, leur réalisation, et leur participation pleine et entière à notre commune société.
Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. Donc, j'en profite pour saluer Régis et Mathias et vous remercier pour l'organisation de cette conférence. Je salue aussi mes collègues virtuellement. Donc, Julia, bonjour. Hi, Anna. Et donc, bonjour, Jacques. Alors, voilà, j'ai intitulé ma petite présentation Montrer une contre-histoire des mondes romani. Prendre la mesure des discriminations anti-Roms ou anti-Tziganes et imaginer les conditions d'une exposition de ces discriminations invite, à mon avis, à retourner les stigmates pour montrer une réalité sociale et culturelle qui n'a rien à voir avec les innombrables stéréotypes élaborés dans l'histoire à propos des mondes romani. Pour détacher et souligner l'image d'une diversité loin des descriptions essentialiste et univoque, il paraît cependant inévitable d'affronter les cycles historiques de cette discrimination et les mécanismes d'une séparation qui a abouti aux violences extrêmes du génocide et des persécutions durant la Seconde Guerre mondiale. Alors donc c'est précisément à mon avis sur cette question de la séparation qu'il faut insister, donc en montrant qu'il y a donc une tentative de séparation des populations romanies du reste de la société à un moment donné de l'histoire qu'il faut arriver à situer, à mon avis, très précisément. Donc, dans ce cas, il faut interroger aussi la construction des stéréotypes et percevoir les points de basculement et les transformations de l'imaginaire collectif, tout en relevant les effets des politiques d'État sur les populations. Dans une exposition idéale et un musée imaginaire panoramique qui ne serait limité par aucune contrainte, il faudrait ainsi montrer les circulations dans la Méditerranée classique, la création des circuits commerciaux, de familles implantées dans l'ensemble des cités portuaires de la Méditerranée occidentale, issues des migrations consécutives à la chute de l'Empire byzantin. Des travaux d'historiens montrent ainsi comment des patronymes toujours en usage aujourd'hui sont présents dès le XVe siècle dans les îles de Sardaigne, de Sicile, à Naples et en Espagne. De l'autre côté de la Méditerranée, des présences romanies demeurent dans toute l'Europe orientale et dans l'ensemble de l'Empire ottoman, ainsi que dans les cités comme Alep et Alexandrie, laissant de multiples traces qui attestent d'une intégration durable dans toutes les provinces et dans les grandes métropoles du commerce et des échanges. La toponymie indique ces rues et ces quartiers, dans quelques cas des localités entières où résident des communautés roms dont l'ancrage perdure durant des siècles, de l'Italie du Sud à la Grèce, de Constantinople aux rives orientales de la mer Noire dans le Caucase. Et à Rome même, au cœur de la ville, cette place, Piazza degli Zingari, qui se situe à quelques centaines de mètres du Colisée. Des signes de répression se manifestent alors, mais contre ces migrants chrétiens de rite grec qui parviennent en terre catholique en pleine Inquisition. Ces condamnations ne sont dès lors qu'un seul côté de la médaille. De l'autre, des entreprises commerciales, des spécialisations professionnelles, des implantations urbaines manifestent un âge d'or des mondes romanis à l'époque moderne. Comment expliquer sinon la présence à Rome de cette place degli Zingari et d'une stanza della Zingara au cœur du temple de l'aristocratie romaine dans la Villa Borghese? Dont l'une des statues se trouve au Louvre, où l'on s'apercevrait ainsi que l'accueil prédominait à une époque où les bohémiens, ritanos ou zingari de l'époque, exerçaient des fonctions politiques et symboliques centrales. Ce que l'on prend aujourd'hui pour un stéréotype, celui de la bohémienne diseuse de bonne aventure, est en fait une distraction prisée par la bourgeoisie locale et l'aristocratie, et aussi une science, la chiromancie, tiraillée d'ailleurs à l'époque entre savoir érudit et savoir profane, débat dans lesquels les savoirs romanis sont utilisés et sollicités. Et la présence de figures en costume dans les catalogues de l'époque moderne atteste ainsi non pas d'une marginalisation, mais d'une présence ordinaire en tant que silhouette et apparition de la vie quotidienne dans les rues des villes ou déjà sur les scènes des théâtres. L'une des figurations traditionnelles de cette époque montre des bohémiens en armes, chez Dürer ou Callot ici. Il ne s'agit pas de rebelles ou de brigands, mais de compagnies militaires au service des seigneurs de l'Europe entière qui accordent des privilèges et les bénéfices de la guerre à des troupes mandatées et autorisées. Retourner les stéréotypes dans ce cas, comme dans bien d'autres, consiste dès lors à historiciser les figurations et les contextualiser pour faire apparaître les réalités sociales et culturelles qui traduisent davantage l'ancrage et l'inscription historique que la marginalité ou l'exotisme. L'un des moteurs actifs de l'antiziganisme insiste en effet sur l'étrangeté fondamentale d'une population qui est à la fois partout, mais qui serait étrangère par définition, comme situé hors des frontières, tout en résidant au sein d'une population dite majoritaire, qui les accepte plus ou moins sans les tolérer. Il est ainsi possible d'exposer les traces de cet ancrage, qui porte aussi les marques de stéréotypes récurrents, tout en contextualisant une présence ancienne et diverse. Le chapitre central d'une construction des stéréotypes et des discriminations envers les Roms dans l'histoire tient dans l'élaboration d'un savoir et d'une expertise spécifique construite depuis le XVIIIe siècle jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Certains chercheurs rejettent aujourd'hui sans nuance toute production savante antérieure aux années 2010, qui sont placées dans un même ensemble des premiers écrits d'observateurs du XVe siècle jusqu'aux théoriciens du nazisme. Cette condamnation globale empêche de saisir en particulier les différences entre des enquêtes ethnographiques extraordinaires et des relevés qui donne à voir des réalités sociales impossibles à reconstituer autrement, et la subduction des discours de la discrimination. En effet, le racisme spécifique anti-Rom est l'addition de discours d'exclusion sociale, d'exclusion administrative et policière, et de principes raciologiques qui ne se conjuguent pas toujours et n'aboutissent pas au même résultat selon les cas. Ainsi, le démantèlement des compagnies militaires dont je parlais au XVIIIe siècle aboutit aux reconversions dans les métiers et le commerce du cheval visibles jusqu'au XXe siècle, et notamment à travers ce portrait d'un gitan catalan, tondeur de chevaux de Toulouse, ou encore sous la figure de cet illustre patriarche du monde des gypsies britanniques au XIXe siècle, et qui sont tous deux les témoins à distance de cette histoire d'une reconversion. Un autre exemple, la grande expulsion et le bannissement des gitans d'Espagne, et de leur langue surtout, conduit donc au milieu du XVIIIe siècle, conduit à la création de quartiers spécifiques et marginalisés à Grenade notamment, et au développement d'une culture des marges, mais aussi des avant-gardes inscrites au cœur de l'hispanité contemporaine. Pour le XIXe siècle, il est impossible de ne pas montrer aussi le regard porté et la naissance de motifs culturels universels qui participent d'une éclosion artistique qui traverse l'Europe entière et le monde, faisant naître une industrie culturelle, musicale et du divertissement à laquelle prennent part d'innombrables collectifs romaniques qui parcourent tous les continents et se transforment en une infinité de compagnies fondées sur la polyactivité professionnelle. Ainsi, des groupes appelés alors Tziganes grecs, allemands ou caucasiens ou russes traversent la Méditerranée et l'Europe de part en part et se retrouvent, comme ici en 1906 en Angleterre. Il y a une autre image que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas grave. Donc, ici en Angleterre, on les voit avant d'entreprendre des voyages au long cours sur tous les continents. Et ces compagnies travaillent à l'époque la chaudronnerie, mais aussi la vente de chevaux, tous les métiers du spectacle, en même temps ou alternativement, et le long de routes faites de temps d'arrêt et de périodes de grande mobilité. En France, le monde du voyage connaît aussi ses mutations. Et une carte postale ici à gauche, qui peut être considérée comme stéréotypée, est aussi une trace précieuse de groupes venus pour les vendanges en Champagne au tournant des années 1900. Travailleurs saisonniers, vendeurs ambulants, artisans spécialisés, professionnels de la vannerie, un métier essentiel à l'époque, de vastes structures sociales reposent sur ces métiers, qui sont la cible principale de la loi discriminante de 1912 en France. Accusés à la fois de tous les maux et en même temps indispensables aux équilibres économiques des campagnes et des villes, ces collectifs poursuivent leur activité jusqu'à aujourd'hui avec d'incessants renouvellements et reconfigurations. Raconter l'histoire en images ou en objets, issus de vastes archives qui restent encore tout à fait inédites, permet de suivre les fils du temps jusqu'aux vendangeurs, ici à droite, des années 50, du côté de Perpignan, ou vers les domaines de Bourgueil, en Indre-et-Loire. Un de ces domaines, sur sa page Internet, les appelle tout simplement les vendangeurs et montre à gauche Émile Duville, qu'on appelle Didi, qui s'appelait Didi, patriarche reconnu de tous, qui a vécu les camps en France durant la Seconde Guerre mondiale et est retourné sur ses terres de naissance et y est resté longtemps. Il a confié certaines de ses photographies à ses amis viticulteurs. Et je voudrais finir cette courte présentation par cette image de sa fille, de la fille de Didi, qui s'appelle Eugénie Duville, la biche, qui est née en 1926 dans la Sarthe et est toujours vivante, en bonne santé, et a longuement témoigné dans le programme de collecte de témoignages dont je m'occupe avec une équipe de recherche. Elle a été arrêtée au début de la guerre, en 1940, et a été incarcérée aux prisons de La Roche-sur-Yon et du Mans, puis internée dans les camps de Poitiers et de Montreuil-Bellay, d'où elle s'évade en janvier 1945. Et elle vit aujourd'hui dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, la terre de sa famille depuis toujours, malgré toutes les infortunes et les discriminations. Et dans ce musée imaginaire, on pourrait finir par le témoignage de Eugénie. Voilà, je vous remercie.
J'ai longuement parlé, mais allez, on va laisser là. Et puis, c'est les mecs, hein, qui ont parlé en premier. Alors, mesdames,
Et pour finir en
désolé,
beauté, c'est donc Anna qui va parler.
c'est Anna. Merci, Anna.
Merci, Julia. Hello, everybody, and thank you so much for the invitation.
À toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Je pense que c'est également très important d'avoir des invités roms, justement, pour partager leur point de vue de concerné. J'aimerais aussi remercier M. Jacques Debois et M. Islen Abou pour leur présentation. Je vais commencer peut-être cette discussion en donnant quelques informations concernant l'anti-tsiganisme et comment ça s'est lié aux pratiques muséales. Quelques informations de base. L'anti-tsiganisme est une façon de racisme. En fait, pour beaucoup d'entre nous, être appelé tzigane, c'est déjà péjoratif. C'est donc une forme de racisme qui est utilisée pour parler de stéréotypes négatifs. Mais en fait, le phénomène anti-rom couvre un spectre très rare, très large, qui comprend aussi des discours de haine et de la violence, mais il s'agit également de préjudices et de stéréotypes et des idées implicites ou explicites et des différentes formes de racisme institutionnel. Et ce qui est important à souligner ici, c'est qu'il y a toute une gamme de stéréotypes positifs qui sont également une forme de racisme. Et ce qui est intéressant là, c'est que il y a un niveau très élevé d'acceptation et une mauvaise compréhension de ce que c'est que d'être mauvaise compréhension de ce phénomène anti-rom. C'est quelque chose qui a été construit, perpétué et stabilisé depuis des siècles via des pratiques juridiques et publiques et puis des discours publics. Ce qui est gênant surtout, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes concernant les Roms qui ont été définis au Moyen Âge et qui sont encore présents aujourd'hui dans les discours publics. Par exemple, le fait que les Roms volent des enfants, par exemple. Et ce phénomène anti-Roms est vraiment enraciné dans les institutions, dans les langues, dans les cultures. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la littérature, depuis des siècles, des Roms ont été présentés comme, dans les littératures européennes, qui créent des images romantiques, souvent qui sont vues comme des sauvages nobles. Mais cela contribue également aux stéréotypes négatifs des Roms qui sont vus comme des voleurs, par exemple. Et même dans des exemples positifs, par exemple, le bossu de Notre-Dame fait perdurer les images négatives. Et cela est vrai aussi dans les œuvres d'art où les Roms sont toujours orientalisés et montrés d'un point de vue très exotique. Cela fait référence à non pas à leur histoire, mais en fait à une espèce d'objet. Et surtout quand il s'agit des femmes, nous voyons le syndrome de Carmen, une hypersexualisation des femmes qui a bien sûr des conséquences graves. Un autre genre dans les arts qui est, je pense, important, c'est la question des photographies. Je pense que la photographie est un des genres les plus problématiques dans ce qui concerne la définition d'une image des Roms. Les minorités Roms sont sont montrés d'un point de vue un peu colonial comme des beaux sauvages européens. Et quand on pense à l'ethnographie du début du mouvement ethnographique et la manière dont la photographie a été utilisée, on voit que une approche au sujet des Roms et à d'autres communautés entre guillemets primitives sont visibles dans ces images, par exemple, qui montrent les femmes à seins nus. On voit des photographies de côté primitif et non civilisé. Et c'est en fait une approche très colonialiste dans l'histoire de l'Europe. Et bien sûr qu'il ne faut pas oublier le racisme biologique qui se voit dans les photographies et comment pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on utilisait les photographies pour catégoriser les Roms. Il y a un problème dans la nature de ces photographies parce que il montre les Roms comme étant des autres, des exotiques, ceux qui ne sont pas à leur place. Et bien sûr que là, il y a un débat que je pense fascinant qui consiste à essayer de comprendre comment traiter les images photographiques qui sont également anti-Roms. Parce qu'il y a un certain niveau de stéréotype dans ces photographies. Je pense que c'est un sujet de débat. Je vais simplement souligner également qu'il y a un grand corpus de décrits à propos de la politique de la photographie et comment nous ne devrions pas montrer ces photographies. Il y a eu plusieurs écrits et je peux vous donner les liens pour aller lire ces écrits. Mais il faut également se rendre compte qu'en dehors de ces types d'œuvres, il y a également des archives, des photographies historiques qui se trouvent dans différents musées et qui incluent un stéréotype négatif à propos des Roms. Un des exemples, c'est une des images qui a été montrée par Ilsen Abou, l'exemple de gravure du XVe siècle qui montre, d'un point de vue négatif, les Roms. Et je pense que c'est important de comprendre que les artefacts historiques ne doivent pas être pris comme étant supposés objectifs parce qu'ils ont été développés dans un certain contexte de réalité sociale et historique et ils illustrent les préjugés de l'époque. Donc, bien sûr que dans les pratiques muséologiques, il s'agit d'un grand défi pour des professionnels parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été créés à propos des Roms et qui sont en réalité qui rentrent dans le contexte du mouvement anti-Rom. Et donc, les musées pourraient contribuer à faire perdurer ces images négatives. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que pendant très longtemps, la connaissance des Roms a été créée par des gens de l'extérieur et non pas par les Roms eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc, dans cette situation, il est important de montrer que ce n'était que quand les Roms ont commencé à parler eux-mêmes à travers des musées et les pratiques artistiques pour essayer de créer une autre force opposée à ces stéréotypes. Et cette réclamation, cette revendication est un acte artistique et moral où on essaye de corriger les torts du passé et on essaye de se montrer nous-mêmes. Et c'est là que j'aurais parlé de l'Institut européen de Rome pour les cultures et l'art à Berlin, qui est la première institution transnationale de culture rome, qui a été faite pour créer et promouvoir notre propre patrimoine, et où nous pouvons travailler nous-mêmes sur l'image qui nous montre. Et on essaye de surtout se concentrer sur le patrimoine rome et pour voir comment les objets ou les artefacts rome sont conservés, comment ils sont montrés dans les musées en Europe. Et même avant de faire ces recherches, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont dit que les Roms ont le droit d'accès à leur patrimoine culturel et à l'interprétation de leur propre culture. Et oui, c'est vrai, parce que il nous manque des espaces et des ressources pour développer ces différentes images de notre culture. Et quand nous avons fait des recherches en 2018 sur le patrimoine rome, nous avons contacté 70 musées nationaux et internationaux. Nous avons envoyé des questionnaires, nous avons parlé avec des musées d'art et des musées de photographie pour voir s'ils avaient des œuvres créées par des artistes roms et comment ils étaient présentés et étiquetés. Et on a trouvé une longue liste de problèmes. Je vais juste en mentionner quelques-uns. Premièrement, que les collections dans les musées focalisent généralement sur des objets. Mais ces objets souvent ne sont pas bien expliqués, bien connus. Souvent, les musées manquent d'informations sur ces objets. Et ce qui est encore plus problématique, c'était encore plus souvent les objets et les œuvres produites par des Roms sont nommés portent le nom de l'ethnographe, mais non pas le nom de l'auteur ou de l'artiste, ou même le nom de la communauté d'où proviennent ces objets. Nous avons également trouvé des problèmes d'étiquetage, de terminologie, l'utilisation de termes racistes dans les étiquettes. Et bien sûr, il y a souvent un manque de contexte historique pour expliquer ces objets. Un autre type de problème concerne le moins de représentation de Rome dans les musées nationaux. Nous avons identifié plus de 30 000 œuvres et objets produits par des Roms dans les musées, mais il n'y en avait que deux qui étaient dans qui étaient exposés. En fait, les autres sont stockés dans les réserves, ce qui fait qu'il est impossible pour des Roms de voir leur propre culture. Les musées présentent souvent des Roms comme des nomades, des voyageurs, mais ne font pas partie vraiment de l'identité nationale. Et les musées ont le pouvoir de contrôler ces discours à propos des Roms. Le manque d'archivage de ces objets Roms est également un problème concernant la reconnaissance de ce patrimoine Roms. Il y a différentes manières de répondre à cette situation, mais je vais peut-être aller directement à ma conclusion pour les histoires de temps. Donc, pour conclure, les pratiques muséales forment un discours sur notre identité, mais quand il s'agit de Rome, il y a beaucoup de problèmes qui doivent encore être traité. Et le contre-discours est absolument nécessaire. Il faut absolument une dynamique qui va perturber les stéréotypes négatifs, non pas en soulignant des problèmes de pratique muséologique, mais en définissant une espèce de protocole. cela est nécessaire non seulement pour des collections permanentes, mais également pour les expositions. Et cela fait partie des mouvements post-coloniales et tous les débats sur la restitution des œuvres d'art. Les Roms doivent être au cœur de ce discours, doivent jouer un rôle actif dans la revendication de ces sculptures au sein des institutions. J'aimerais donner quelques idées à propos de ce qu'il nous faudrait. D'abord, une représentation. Je pense qu'il y a tellement d'objets, tellement d'œuvres, des artefacts qui parlent des Roms, qui ont été créés par des Roms et qui représentent en fait souvent un fantasme ou une image imaginaire qui n'a pas été vérifiée auprès des Roms eux-mêmes. Et nous avons également besoin d'institutions Roms et de ressources Roms qui permettent aux Roms de créer un discours propre à notre identité, un discours qui nous permettrait de montrer la diversité culturelle et des modes de vie dans notre culture et notre mode de vie contemporaine. Il faut que les Roms soient activement inclus dans tous ces mouvements. Les professionnels des musées doivent également entamer un regard critique sur leur propre collection. Et cette autoréflexion est très difficile, mais il peut se faire de façon très positive. Et je pense qu'il y a des manières de comprendre ce que l'on fait avec des objets qui posent problème et comment on peut, sans faire exprès, reproduire une inégalité et maintenir un certain racisme. Et pour conclure, je dirais avant d'entendre Julia, je dirais que nous avons été témoins de beaucoup de problèmes. Je pense que ce n'est pas une mauvaise volonté, il s'agit plutôt qu'un manque de réflexion. Et nous sommes très fiers et très, très heureuses de pouvoir tester ces nouvelles pratiques avec le MUCEM, et nous sommes très heureux que ce processus qui a pris quelques années, c'est un bon exemple d'un mouvement très positif qui montre bien que les choses ne sont pas impossibles. Et cela ne s'applique pas seulement aux Roms, mais à toutes les populations qui sont victimes de discrimination. Donc, nous sommes très heureux de collaborer et ça a été vraiment source d'inspiration. C'était un bon exemple, je pense, pour d'autres musées qui pourraient suivre nos pratiques. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais peut-être passer la parole à Julia qui va vous parler plus de comment nous avons fait pour essayer de créer ce nouveau discours ensemble. Merci beaucoup et je réjouis d'être ici.
Merci Anna, et puis merci Jacques Hilsen, et puis le classique remerciement, mais non moins sincère remerciement aux organisateurs de ces journées. Petit PowerPoint qui va vous parler d'un projet d'exposition. Alors, ça ne permettra pas de répondre à la question de comment les publics réceptionnent et reçoivent les expositions autour de l'antiziganisme, puisque cette exposition est en cours de construction. Il s'agit de l'exposition Barvalo. Alors, Barvalo, en langue romanie, ça veut dire riche, et dans certaines formes dialectales du romanie, ça veut dire fier. Donc, vous voyez déjà un petit peu de quoi il est question. Et donc, c'est une exposition qui ouvrira ses portes en avril 2023 au MUCEM. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez tous aller la visiter d'ici 2 ans. Donc, c'est une exposition qui, à l'origine, c'est-à-dire quand on a commencé à se pencher dessus en 2017 avec Jonah Steinberg, qui est un anthropologue américain qui est co-commissaire de l'exposition, c'était une exposition qui allait parler des métiers, des savoir-faire des populations romanies en Europe et en Méditerranée. Et Jonah et moi, on était sensibles au mouvement Nothing About It Without Us, et notamment à celui lancé en 2014 par un groupe d'intellectuels roms depuis Budapest. Et on s'est assez vite dit que ce n'était pas possible de, voilà, de faire une exposition rien que tous les deux et qu'il fallait qu'on, bah, qu'on inclue notamment les personnes concernées par, par le discours qu'on allait mener. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, bah, de faire une exposition co-construite. Donc, on est 21 à travailler sur cette exposition. Alors, quand je dis sur l'exposition, ce n'est pas uniquement le synopsis, la liste d'œuvres, c'est aussi le catalogue, c'est aussi la programmation événementielle autour de l'exposition, la médiation. Bref, c'est assez large. Et donc, pour faire avancer notre bateau Barvalo, donc on est une équipe curatoriale de 5 personnes. Donc, il y a Jona, que j'ai mentionné, il y a Anna, que vous connaissez maintenant, qui est là en tant que commissaire représentant l'ERIAC, et 2 collègues du MUCEM, Françoise d'Allemagne et Alina Maggiore. Et puis, on a surtout un groupe de 16 experts que vous voyez ici. Donc, ce comité des experts, en fait, il représente une diversité. C'est-à-dire qu'on a rassemblé autour de ce projet des personnes qui ont une expérience variée des cultures romanies, soit parce qu'ils sont d'origine romanie eux-mêmes, et on a été attentif à essayer d'avoir des membres de chacune des principales communautés romanies, donc Manouche et Sinté, Rome, Gitan, et puis aussi parce qu'on est en France, cette catégorie administrative créée par l'État français qui est celle des gens du voyage mais qui préfèrent se faire appeler voyageurs. Tous ont pour trait commun de travailler avec les différentes communautés romanies selon des échelles différentes. Donc, il y a certains de nos experts qui travaillent au niveau local, donc marseillais pour ce qui concerne le MUCEM, national et puis aussi international. Alors, vous me direz, et c'est ce que nous disent certains de nos experts, avec la France, on a quand même un cas relativement riche qui en lui-même pourrait nécessiter plusieurs expositions. Pourquoi ouvrir à l'international et à l'histoire et aux cultures roms à travers l'Europe? Bah, tout bêtement parce qu'on est au MUCEM et que, étant le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, on s'est dit que c'était, on pouvait pas vraiment faire l'impasse sur l'ensemble de l'Europe. Donc, ces experts ont des profils différents. Certains ont un profil académique, donc parmi eux, il y a des géographes, des historiens de l'art, des anthropologues, des sociologues, des muséologues, des artistes, plasticiens, photographes, artisans, des militants. Mais en fait, je dis ça, au final, nous sommes tous devenus militants au fur et à mesure, et l'exposition, au final, est passée d'un projet assez classique de métier à finalement un discours sur l'anti-tsiganisme et sa dénonciation. Et évidemment, illustrer les talents des populations romanies à travers l'Europe. Donc, on a mis 2 ans à réunir ce groupe et on remercie du fond du cœur William Acker, Yaria Al-Abdoula, Nelly Debar, Bénédicte Florin, Lise Foineau, Pascal Garret, Caroline Godard, Gabi Jiménez, Timéa Yongaos, Jean-Pierre Liégeois, Adrienne Marche, Valentin Merlin, Sémien Miles, Christiane Padouré, Santino Spinelli et Sacha Zanko, parce qu'on leur demande une implication sans cesse grandissante dans ce projet et sans eux, ben, on n'arriverait pas à avancer. Vous avez bien compris qu'on était donc 21 à travailler ensemble et on a bien conscience, tout le monde a bien conscience autour de cette table, que chacun représente une voix. Il n'est pas le porte-parole d'une ou deux communautés romanies. En fait, il exprime son propre point de vue, tout en ayant conscience qu'il y a une certaine responsabilité à parler de ces communautés et que la manière dont il ou elle en parle va avoir un impact sur la manière dont donc, on va les représenter dans l'exposition. Forcément, on est 21 avec tous des opinions différentes, donc les avis sont divergents. Mais l'idée, ce n'est pas forcément non plus d'exposer une vision consensuelle, c'est justement de montrer cette pluralité de points de vue. Et finalement, cette exposition, ça serait une exposition de 21 points de vue. Donc forcément, comme on est 21, ça prend du temps d'organiser tout ça. Ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui et qui ont déjà participé à ce genre de projet de co-construction savent qu'on double le temps de préparation d'une exposition normale. Donc voilà, ça demande de l'énergie, mais c'est une très grande richesse. Et on doit avouer que la situation de pandémie mondiale ne nous a pas facilité la tâche parce qu'on est passé d'une forme de fonctionnement sous forme de séminaire et d'atelier à Marseille pendant 2-3 jours à des webinaires une fois tous les 2 mois de 2 heures et beaucoup d'entretiens pardon, individuelles pour continuer à avancer. Donc, au moment où je vous parle, on en est au stade de la liste d'œuvres. Donc, ce qui va répondre aussi à l'une des questions qui était posée, à savoir qu'est-ce qu'on montre. En l'occurrence, nous, ça va plutôt être au stade où on en est, qu'est-ce qu'on ne montre pas, parce qu'on est plutôt d'accord sur un certain nombre de choses. Alors, ça ne va pas être un méga scoop pour vous, puisque c'est des choses qu'on évoque depuis hier. Mais on va éviter de montrer des œuvres blessantes ou dévalorisantes. Et il y a un gros consensus autour du fait de ne pas montrer la nudité, et notamment la nudité des enfants. D'éviter le misérabilisme, donc par exemple pas d'image de bidonville, et la victimisation. Cela étant, on ne pourra pas non plus occulter cette dimension de victimisation, puisque notamment Jacques l'évoquait tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale et le génocide des populations romanies n'est toujours pas reconnu, et donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on montre, mais on sera soucieux de montrer aussi bien pour cet épisode du génocide de la Seconde Guerre mondiale que pour l'histoire millénaire des populations romanies sur le sol européen, on sera attentif à montrer aussi des actes de résistance et aussi des héros. La question des stéréotypes aussi, elle s'est posée et on en a beaucoup discuté parce que nous, on était un peu enthousiastes à l'idée de dire « oui, on va démonter les stéréotypes, on va expliquer comment ils sont nés et puis montrer à quel point ils sont absurdes ». Et au final, après moult discussions, on s'est dit « en fait, c'est dangereux parce que finalement, expliquer de manière rationnelle les stéréotypes, bah, ça va être leur donner du crédit, ça va les rationaliser, donc on ne va pas se placer sur ce chemin de la rationalité. On va plutôt essayer de faire ressentir par les émotions à nos visiteurs ce que sont que ces images stéréotypées, ce que c'est que ce racisme. Et du coup, on a eu envie d'inverser la position et en fait de faire en sorte que ce soit le visiteur qui ressente ce que c'est que d'être montré, d'être exposé. Et du coup, on aura une partie de l'exposition qui sera consacrée à la gadgeologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la gadgeologie? Eh bien, c'est la science du gadjo. Le gadjo, c'est l'autre en langue romanie, c'est-à-dire la personne qui n'est pas d'origine romanie. Et du coup, on va faire un cabinet de gadgeologie, une espèce de musée qui, sur proposition artistique, mais évidemment nourrie par les réflexions qu'on va avoir et qu'on a déjà avec nos experts, donc va montrer une vision stéréotypée de ce que c'est que le gadjo. Évidemment, c'est un exercice qui est périlleux parce qu'il ne faut pas que les visiteurs pensent d'une part que ces Roms, finalement, c'est tous des racistes, et d'autre part, qu'ils comprennent aussi qu'il y a une part d'humour dans cette représentation. Et donc, voilà, on va être attentif à pas rater le coche et donc faire passer le message inverse, finalement, que celui du propos de cette section d'exposition. Il y a une autre forme d'exposition à laquelle on vient de songer récemment, qui est en fait le degré zéro de l'exposition de l'antiziganisme, mais qui est vraiment l'exposition de l'antiziganisme au sens premier du terme. Ce sont, Anna l'a évoqué tout à l'heure, les bases de données des collections en ligne des musées. Parce que très souvent, en fait, c'est ces bases que n'importe qui peut consulter sur les sites des musées, ce sont juste des extracts, des bases d'inventaire, qui, pour les collections du MUCEM, en fait, des collections qui ont été collectées tout au long du 19e siècle et 20e siècle, qui ont été collectées au long du 20e siècle, mais qui remontent au 19e pour les collections romanies, et qui sont surtout des représentations des populations romanies par des non-romanies. Et en fait, nos inventaires reflètent un anti-tsiganisme inconscient et du coup, continuent à le diffuser. J'ai tapé au hasard parmi les plus de 800 objets qu'on a dans les collections sur les populations romanies. J'ai tapé gitan au pif dans la base de recherche et je suis tombée notamment sur ces deux objets que je vous présente là. Si vous regardez la description de cette cible de tir forain, vous voyez qu'il est écrit « cible porte-pipe de tir forain représentant une gitane, portrait de tête », entre parenthèses. Donc, comme si, au final, c'était tout à fait normal de tirer à la carabine sur une tête de femme d'origine gitane pour gagner un ours en pluche. voilà, aujourd'hui, un forain qui exposerait, qui inciterait à tirer sur ce genre de, d'effigie aurait un procès. Donc, c'est un objet qui demande vraiment à être contextualisé et pas apparaître comme ça sur les inventaires en ligne. Idem avec cette estampe sur les chemins. Vous voyez, ça représente une route sur laquelle passe un bolide. Et au bord de la route, on a un groupe de personnes qui semblent avoir un mode de vie itinérant parce qu'il y a une tente et qui sont tous en train de jouer de la musique. Et la personne qui a rédigé les mots-clés de cet inventaire a écrit « gitan », alors qu'en fait, on ne sait pas si ces personnes sont d'origine gitane, et aussi « mendicité », alors qu'en fait, ils sont en train de jouer de la musique. Donc, il a mis ses propres représentations dans cet inventaire que nous, on diffuse allègrement. Donc, on a commencé un travail de reprise de cet inventaire et on s'appuie beaucoup sur le travail qui a été mené par nos collègues néerlandais du Musée des Cultures du Monde qui ont édité un manuel qui s'appelle « Words Matter », et qui, justement, reprend toutes ces considérations de racisme qu'on diffuse, notamment dans les musées d'ethnologie et de société, à travers les collections, pas uniquement dans les inventaires, mais aussi dans les cartels, en salle, etc. Donc voilà, c'est un gros boulot qui nous attend. Alors, on a commencé par les populations romanies, parce qu'en fait, on était en train de travailler dessus à la faveur de l'exposition Barbalo, mais on va l'étendre à toutes les populations, enfin, à toutes les représentations de l'autre, de nos collections, et elles sont nombreuses. Là-dessus, j'interromps ma présentation et je vous remercie de votre écoute.
Merci Anna, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer Anna, et c'est également remerciement à la traductrice aussi qui nous permet de bien comprendre très rapidement ce que dit Anna. Sur les photographies, il y a un côté paradoxal dans les photographies, ce qu'on appelle les photos d'identité, face et profil. J'en ai d'assez tragique dans ma propre famille, puisque mon arrière-grand-mère, à l'âge de 67 ans, vers 1912, a été photographiée comme un voyou de face et de profil, comme un délinquant, comme un criminel. C'est la même photographie que la photographie criminelle. Et j'en ai plusieurs, arrière-grand-mère, j'en ai plein dans ma famille, de ce type de photos. Mais paradoxalement, ce sont les seules photos que nous retrouvons dans les archives et dont nous disposons de nos propres familles. Ce sont des photos haïssables, détestables, mais archi précieuses pour nous, parce que sans cela, nous n'aurions pas de photos de notre propre famille. C'est assez étonnant, et ça, c'est un des paradoxes qu'il faut fouiller. Bien évidemment, alors là, ce serait un très vaste sujet, mais Anna a très très bien fait de le soulever. Le récit qui nous concerne, c'est le récit des autres. Nous sommes les acteurs de notre histoire, bien évidemment, comme chacun, les Bretons sont acteurs de l'histoire bretonne, et les Auvergnats, nous sommes les acteurs de notre histoire, mais nous ne sommes pas les auteurs du récit. Et ça, c'est en train de changer. Et ce dont a parlé Anna, à ce niveau-là, est extrêmement important. L'accès des Tziganes et des Roms, des Romains à l'écriture, fait que nous deviendrons progressivement, et nous devenons progressivement aussi les auteurs de cela. Donc, j'ai adoré ce dont parlait Julia, et il y a un autre domaine où j'inviterai le MUCEM à compléter ses collections, c'est à travers la littérature enfantine également. Je collectionne au hasard des recherches et des trouvailles, si vous voulez, qui piquent le hérisson. C'est un petit bouquin qui est édité depuis, c'est un petit livre où on voit le hérisson qui est récupéré par des tziganes qui veulent le manger, et en plus il y a une description, le cheval il est maigre, les carreaux de les vitres de la caravane sont crasseuses, ainsi de suite. Et au fil du temps, ce discours va se modifier très 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 légèrement, et il va comme cela, si vous voulez, au fil du temps, devenir un petit peu moins raciste. Mais cette évolution, elle est intéressante. Le livre dans lequel j'ai appris à lire et à écrire dans les écoles de la République, dans le petit village de Charçay, en Bourgogne, c'était Bouzou, l'enfant ours. Et Bouzou, si vous voulez, cet enfant ours, il a été attrapé, vendu à des tziganes, il est passé à un cirque, ainsi de suite. Donc, la littérature enfantine aussi, à mon avis, ça devrait figurer très rapidement dans les collections des musées pour contrer cet anti-tziganisme latent, diffus, pas méchant, mais qui existe. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques Debout. Merci aussi aux interventions de Nielsen Abou, Anna Mirga et évidemment Julia Ferloni. Je crois Régis veut poser une question. On a des questions du public qui arrivent, donc je propose peut-être Régis pose sa question, puis après je prendrai les questions du public.
Oui, une question très rapide, mais c'est en écoutant Anna que j'ai pensé à ça. À ma connaissance, il n'y a pas de musée spécialement en France consacré aux Roms, à la culture rome et à l'histoire rome. Est-ce qu'il existe des musées de ce type en Europe et aussi, est-ce qu'il y a des projets qui sont éventuellement en cours pour la France?
Thank you. This is an excellent question.
Merci pour cette question. C'est vraiment une question excellente. Il y a un musée d'État sur la culture roma qui se trouve à Brno, dans la République tchèque. C'est un musée unique qui a été créé et qui a été impulsé par des militants et qui a fini par devenir un musée public recevant des fonds de l'État. Il est toujours, la direction est un collectif de Roma. Mais c'est étonnant de voir que les Roma, qui sont environ 12 millions, ne disposent que d'un seul musée dans un seul pays. Donc, c'est effectivement, vous soulevez un problème très important. Et dans nos projets à long terme, et la fondation d'un musée d'art contemporain roma transnational. Mais comme nous ne disposons pas de ressources financières et que nous dépendons de la volonté politique des uns et des autres, nous sommes en train de faire des expériences avec un musée interdisciplinaire, avec des performances, des expériences de spectacles, pour essayer d'imaginer ce qu'un musée d'art contemporain européen romani pourrait être. Et ceci, bien sûr, se situe au centre de ce qu'est un musée. À quoi doivent ressembler les musées à l'ère post-Covid? Comment les musées doivent-ils représenter les opprimés et la voix des opprimés? Et tout ceci dans le cadre du discours de décolonisation européen. Donc, il pourrait y avoir des partenariats avec d'autres musées. Donc, tout ça, c'est là, bien sûr, vous comprendrez, je vous invite à rejoindre ce projet. C'est une nouvelle expérience de musée roma et nous serons très heureux de coopérer avec vous et de poursuivre cette expérience avec vous.
À Auschwitz, il a fallu très longtemps avant qu'existe un pavillon spécifiquement dédié à la question rome.
Merci beaucoup. Ilsen Abou a levé la main, donc on va lui donner la parole. J'aurais peut-être une question aussi pour lui après.
D'accord, je voulais juste préciser qu'à titre exceptionnel, et c'est suffisamment intéressant pour le noter, il y a une salle dans la nouvelle configuration de l'exposition permanente du musée Art Latin qui est consacrée aux présences gitanes du pays d'Arles. Mais c'est vrai qu'à l'échelle française, c'est une rareté.
Oui, juste pour compléter ce que disait Lysène, effectivement, il n'y a pas de musée en France, il n'y a pas de projet de musée de collection publique, en fait, d'exposer les populations romanies. Il y a juste des initiatives privées, par exemple le Tico Musée. Mais sinon, effectivement, à part cette salle qui va ouvrir là au musée d'Art Latin, rien de spécifique et de pérenne.
Alors, peut-être.
Une scène.
Oui, j'ajoute, en fait, il y a un projet en fait en ce moment qui est en discussion de créer un lieu de mémoire permanent consacré au camp de Montreuil-Bellay. Mais c'est à l'état de projet.
D'accord. Merci.
J'avais une question qui peut s'adresser à vous trois, Julia, Anna et Ilsen. C'était sur cette question de l'archivage, finalement, puisque vous en avez parlé, Anna, sur le fait qu'il y avait un défaut d'archivage du patrimoine rom dans les musées. Donc ça, vous l'avez indiqué. Est-ce que par là, vous entendez ce qu'évoquait Julia, à savoir le fait qu'il y a des fois des objets qui sont très mal interprétés, et donc là, il y a des défauts dans l'archivage, ou le fait simplement que des objets sont dans la réserve mais ne sont pas véritablement inventoriés. Et ça me fait un peu penser à ce qui avait été évoqué au moment de l'exposition sur le modèle noir au musée d'Orsay, plus précisément, et le fait que ça avait été aussi l'occasion de renommer des œuvres, et notamment d'identifier des personnages qui n'avaient pas été identifiés comme, voilà, à partir de leur biographie propre. Est-ce que c'est ce même esprit? Je pense que ça renvoie aussi à ce que peut-être le travail qu'a pu faire Ilsen, et je pense notamment à l'exposition qui avait eu lieu au Musée national sur l'immigration en 2018, sur les images, sur les photographies. Donc, c'est une question ouverte à toutes les trois, enfin à tous les trois, pardon.
If I may be the first one to answer, this is a great question.
C'est une bonne question. Il y a deux catégories d'objets que l'on essaye de comprendre et d'analyser. D'abord, les objets créés par des Roms, les photographes ou les artistes Roms. Et là, on rencontre des problèmes de manque de contexte, manque d'identification, d'attributs. Donc, il s'agit de la manière dont les objets sont catégorisés. Et là, on parle de, par exemple, des bijoux, des objets de la vie quotidienne dans les musées ethnographiques. Et souvent, il y a un mauvais étiquetage de ces objets. Et ensuite, il y a l'inventaire plus large qui concerne des objets qui parlent du peuple rom, qui sont peut-être inspirés par les Roms. Il peut y avoir des objets... des documents historiques, des photographies qui sont créées par des personnes de l'extérieur de notre culture et qui reflètent l'impression d'un observateur. Et il y a une tension entre l'observation et la manière dont les objets sont montrés. Et cela revient à des... Il y a des parallèles avec des objets concernant les Afro-Américains ou les différentes populations indigènes. Ce n'est pas facile pour les Européens de comprendre que les pratiques coloniales n'avaient pas lieu uniquement ailleurs, mais que ça se passait également en France ou en Europe, qui a eu des pratiques coloniales, par exemple, pendant des siècles, en Roumanie et ailleurs. Donc, il y a des questions historiques, des dimensions qui caractérisent le racisme en général qui touche à ces objets. Et quand on parle des pratiques colonialistes, la première étape, ce serait de parler avec ceux qui sont les plus proches. Ma famille, par exemple, n'a jamais été nomade. Ça fait 300 ans que nous faisons partie d'une histoire locale dans le sud de la Pologne. Mais cette histoire a complètement été effacée de l'histoire nationale de Pologne. Et c'est pareil dans tous les pays.
Merci beaucoup, Anna. Ilsen, Julia, vous voulez réagir?
Sur ce qu'elle a dit sur les collections romanies dans les musées. Juste un point, c'est que du coup, on s'est beaucoup rendu compte, nous, en travaillant sur ces sujets pour l'exposition Barbalo, qu'au final, la représentation qu'on avait des objets romanis, des archives, ce sont celles qui sont données par les collecteurs, qui ne sont pas romanis eux-mêmes, et donc du coup, ces informations lacunaires que signalait Anna sur on ne sait pas qui sont les auteurs, avec souvent des erreurs d'attribution quant à l'ethnie, etc. Donc, du coup, nous, on se sert de ce travail mené avec nos experts de Barvalo pour essayer de faire un contrepoint à ces collections historiques, entre guillemets, les questionner sur ce que serait pour eux un patrimoine romanique et ce qu'on devrait mettre dans les collections publiques françaises qui permettent de parler de manière plus juste pour eux. Alors, ce n'est que leur opinion, donc c'est l'opinion de 20 21 personnes. C'est pas le reflet de tout ce que pensent toutes les cultures romanes, mais au moins c'est une tentative pour essayer d'équilibrer un petit peu et d'avoir une vision un petit peu plus juste, un petit peu plus voilà, plus égale de ce que pourrait être un patrimoine romani. Et du coup, depuis 2018, on fait des acquisitions en ce sens, voilà, qui sont soit proposées directement par nos experts, soit qui sont suggérées par eux, et ensuite du coup on fait les démarches nécessaires pour augmenter ce patrimoine.
Ilsen,
oui, bah, je pourrais ajouter une des anecdotes peut-être les plus révélatrices. C'est en fait la présence d'une salle à l'Holocaust Museum à Washington consacrée au génocide des Roms et Sinti en Europe. Et en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une sorte de carriole au milieu de la salle. Et après recherche, personne n'a été capable d'expliquer la présence de cette carriole, son origine et son lieu de fabrication. Et c'est révélateur du fait que, effectivement, des collections autour de l'histoire romanie en Europe sont dispersées dans des centaines de lieux sans aucun référencement parfois. Et en fait, on manque de guides de source, d'instruments de recherche qui permettent de saisir en fait les lieux de l'archive de cette histoire.
Merci beaucoup. Alors, j'ai une question du public. Je vais poser. C'est deux questions en fait. Peut-être je vais commencer par la deuxième. Donc de Verle van den Delen. Est-ce que le travail, donc il s'adresse plutôt à Julia Ferloni. Est-ce que le travail donc avec les 21 points de vue dans l'exposition que vous préparez est aussi une façon de mettre en œuvre ce qui a été évoqué précisément par Verle van den Delen hier, cette image du musée agonistique, du musée comme lieu de confrontation un petit peu des points de vue. Est-ce que c'est dans cette perspective-là ou au contraire plutôt trouver un consensus, enfin, voilà, je
laisse. Alors, cher Verle, j'ai failli vous citer tout à l'heure dans ma présentation parce que j'ai évidemment rebondi sur... ça fait tilt dans ma tête quand vous en avez parlé hier. À la base, pour être honnête, quand on s'est lancé dans cette co-construction à 21, l'idée... Bon, alors, en tout cas celle que je souhaitais intérieurement, c'était qu'on arrive à un consensus. Mais en fait, le consensus n'est pas possible. En tout cas, il n'est pas possible sur tout. Parce que les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes, et c'est normal. On va pas pouvoir présenter effectivement une vision globale et du coup l'exposition d'une certaine manière elle va essayer, en tout cas c'est ce à quoi on va essayer de s'attacher, de présenter cette diversité de points de vue, mais en faisant en sorte que ça reste lisible aussi pour le visiteur, qu'il n'ait pas l'impression d'avoir moi je dis ça, mais donc il va falloir lisser ces différents points de vue pour arriver à un message. En fait, finalement, ce qu'on veut faire porter, c'est un message commun, mais qui est exprimé de manière plus ou moins différente selon ceux qui expriment ce message.
Que d'autres veulent réagir à cette question. Il scène sur l'expo avec des images qui étaient sur un modèle tellement, enfin, très très différent.
Tu voudrais que je revienne sur l'exposition du musée de l'immigration.
Simplement, peut-être, c'est vrai que comme il y a deux modèles de commissariat, finalement, qu'on est sur la question de l'exposition, qui sont totalement opposés. Éventuellement un petit mot sur cette expérience de commissariat.
Alors, dès le départ de ce projet, on avait imaginé en fait affronter la question des stéréotypes visuels en consacrant une partie de l'exposition à une forme d'historicisation et de déconstruction des stéréotypes, en montrant les tensions qui existaient entre les productions photographiques. Donc là, ça exigeait un travail patient de repérage des fonds et de sélection des images, afin de construire un discours critique en fait sur les images. Et puis après, on a proposé une sorte de géographie mondiale des populations romanies en insistant sur la dimension du territoire et de l'ancrage parfois très ancien. Et dans une troisième partie, il y avait toute une tentative pour retrouver à travers les corpus l'histoire de communautés, notamment en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, et de faire émerger des corpus révélateurs la vie des communautés et de vision de l'intérieur, hein, puisque notamment on avait consacré tout un mur à l'œuvre du photographe Matteo Maximoff, qui a collecté des images autour de sa famille pendant toute sa vie.
Merci beaucoup. Régis, je sais pas, il est 21, il est, pardon, excusez-moi, il est midi 41.
Je pense qu'il est l'heure de conclure.
Voilà, j'ai déjà. Donc, je vous propose de conclure pour cette matinée qui a été également très dense. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie également les participants aux tables rondes de la matinée.